Je vous invite à prendre vos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et nous allons lire les versets peut-être qu'il faudrait que je commence au verset 35, hein, c'est une longue phrase là. Hébreux chapitre 11, verset 35, je vais lire jusqu'à la fin du chapitre. Il dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Alors, ce verset 40 pourrait méditer un moment là, et peut-être on prendra le temps aussi. Souvent, on enseigne cette idée que celui qui marche par la foi, et si on marche par la foi, et si on a la foi, tout s'arrange, tout se passe bien. Et souvent, on cite les premiers hommes dans ce chapitre, et on voit combien leur foi, finalement, a apporté des solutions, et comment les choses se sont arrangées, parce qu'ils avaient la foi. Mais lorsque nous lisons à partir du verset 35, comme nous l'avons lu, eh bien là, on a l'impression que la plupart des gens ont souffert et que, bien qu'ils soient dans la liste de ceux qui ont cru, et pas pour le salut, hein, quand on croit pour le salut, c'est garanti, on l'obtient. Mais après, la foi pour la marche et pour la vie, alors là, c'est pas tout le monde qui obtient le résultat qu'on aurait voulu. Hein, les choses ne s'arrangent pas comme on voulait. Et donc, certains sont passés par des moments difficiles. Il dit, quand même, il dit au verset 38, il dit « eux dont le monde n'était pas digne ». C'est-à-dire, le monde ne les a pas appréciés, le monde n'a donné aucune valeur. Ce n'étaient pas les héros ni les modèles dans la vie. C'était les rejetés, les indésirables, à cause de leur foi. Et pour Dieu, il dit, le monde n'était pas digne d'eux. Mais verset 39 dit, tout cela, quand on dit tout cela, ça veut dire tous ceux qui sont mentionnés dans ce chapitre, donc à partir de Abel, et Enoch, et Noé, et Abraham, Moïse, et tout cela, il dit, à la foi desquels il a été rendu témoignage, donc ça veut dire que chacun de ceux-là a exercé la foi, a vécu par la foi, a agi par la foi. Il dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ont cru, mais finalement, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont quitté cette terre dans différentes conditions sans obtenir ce qu'ils avaient cherché sur terre. Et nous sommes là, et pourtant, lorsque nous regardons ce passage, ce chapitre, on voit des noms qui pourraient nous étonner. Et pourtant, ils sont dans la liste de ceux qui ont exercé la foi. Vous savez, en cette fin d'année, la coutume veut, qu'on fasse un peu le bilan de notre vie passée, notre année passée, comment les choses se sont passées. Et puis, bien sûr, c'est toujours suggéré qu'on prenne des résolutions, au point qu'il y en a qui ne veulent plus prendre résolution parce que tellement ça n'a pas tenu que, hein, ils ne dépassent pas le mois de janvier déjà et ça ne tient plus. Mais, et parfois, à force de ne pas réussir, à force d'échecs, même quand on avait des bonnes intentions, eh bien, on finit par baisser les bras et puis dire c'est pas la peine, j'essaye plus, comme ça, voilà, moi je suis comme ça. Ou bien, on oublie tout ça, on n'y pense plus, puis on dit moi je regarde de l'avant, je regarde pas en arrière, je pense pas à mes échecs, je pense rien que de l'avant et je fonce. Et puis, bon, ben je continue, hein, je fais la même chose cette année que j'ai fait l'année dernière, j'ai rien tiré. Mais je continue parce que je ne pense pas à l'année dernière, donc je suis encouragé et j'y vais. Il y a plusieurs manières de prendre, hein, et psychologiquement, c'est les uns, ça marche chez les uns, et puis l'autre chose, ça marche chez les autres. Mais quand il s'agit de notre performance spirituelle, hein, notre vie spirituelle, si ça n'était pas trop réussi dans le passé, ça veut dire que je n'ai pas fait beaucoup de progrès cette vie, et je ne peux pas l'ignorer. Je n'ai pas fait le progrès dans ma marche chrétienne comme j'aurais voulu. Et je peux être déçu. Et puis après, le pasteur, il parle de marcher par la foi, et puis marcher en avant, et tout ça. Et puis après, moi, je me dis, ouais, moi, je suis un peu raté, là. Je ne marche pas comme j'aurais voulu, ni comme le pasteur nous dit qu'on doit le faire. Et on peut se décourager. Et normalement, un prédicateur, le pasteur, quand il parle, ce n'est pas pour décourager les gens, c'est pour les encourager. Donc, en fait, je pensais que ce passage-là, ce passage d'Hébreux, est là pour notre encouragement. On regarde, on dit, mais je n'ai pas la foi d'Abraham, je n'ai pas la foi d'Isaac, je n'ai pas la foi de Moïse. Et oui, mais regardez un petit peu ces personnes. Parce qu'il nous dit, il nous met tous dans la même catégorie. Il n'a pas dit, il y a les vainqueurs, c'est les débuts du chapitre, ça c'est les bons, qui parlent la foi, et puis après... Dans la deuxième partie du chapitre, c'est les gens qui, bon, ils ont exercé la foi, mais c'était un peu raté. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de... Pour Dieu, ils sont tous ensemble. Ils sont tous des personnes qui ont marché par la foi. Et souvent, à qui est-ce qu'on pense quand on pense à des hommes de foi? Eh ben, dans la Bible, eh bien, on pense à Noé... Il a construit une arche, et puis ça a pris du temps, et puis il a continué alors qu'il pleuvait même pas, et puis il n'y avait même pas de l'eau qui montait, et puis il construisait une arche sur la terre ferme. Bon, c'était la foi, ça. Et puis, ou Abraham qui est parti pour un pays inconnu, ou Moïse qui a mené les enfants d'Israël à travers la mer Rouge, et à travers du désert, et puis... Et on pense à cela, puis tu dis, ça c'est des grands hommes de foi, mais moi, je ne suis même pas une chandelle à côté d'eux. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans ce passage, on a des gens qui sont moins bien connus. Il y a par exemple, c'est seulement dans l'Épître aux Hébreux qu'il nous dit qu'Abel a fait ce qu'il a fait par la foi. Quand on dit Genèse, ça ne dit pas qu'il l'a fait par la foi. On a l'impression, quand on lit Genèse, il était berger, donc il a sacrifié un mouton, et puis son frère, il était maraîcher, donc il a offert des légumes. Et puis c'est tout, on ne fait pas jouer l'aspect foi. En fait, c'est ça qui est la différence. Pourquoi l'un a été accepté et pas l'autre, c'est pas parce que c'est une question d'animal ou c'est une question de foi qui a fait la différence. Hein, Dieu a choisi Abel parce qu'il l'a fait par la foi. Quand il s'agit de Sarah, quand on lit dans Genèse, ça fait pas si longtemps que ça, on a parlé de Sarah. Et Sarah, quand Dieu a dit tu vas avoir un enfant l'année prochaine, elle a 15 à 10 ans, elle a ri. Et c'était pas un rire de foi. Et si on était resté avec l'impression qu'on a de Genèse, on a dit, mais bon, Sarah ne donne pas l'impression d'une femme de foi. Alors que quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit, c'est par la foi que Sarah. Donc, ou bien, il nous parle aussi des parents de Moïse. Quand on lit dans l'Exode, il nous parle des parents de Moïse. Eh bien, il ne nous dit pas que c'est par la foi qu'elle a gardé son enfant. Nous, on a l'impression que, bon, une maman, ben, ne va pas jeter son enfant dans la rivière au crocodile, comme ça. C'est tout, c'est tout naturel. Mais quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit que c'est par la foi qu'elle ne l'a pas jeté. Hein, donc, c'est-à-dire, il y a dans la Genèse ou dans les récits, alors on a mais la vue d'en bas, c'est-à-dire vue de terre, quand on se regarde. Et on peut se regarder niveau terrestre, et on se regarde, et on dit, bon, bah, les gens de foi, bah, ouais, il n'y en a pas ici à Fréjus, hein, bah, il faudra aller regarder ailleurs. Après, on va chercher des gens qui ont fait des grandes choses, on va chercher ailleurs. Mais quand on lit l'Épître aux Hébreux, on a la vue d'en haut. Et vue d'en haut, eh bien, Dieu voit la foi là où les hommes n'en ont pas vu. Et finalement, lequel est le plus important ? Que M. Barnes l'ait vu ou que Dieu l'ait vu ? Hein ? Et c'est ça qui est important, premièrement, c'est que dans ma vie quotidienne, personne ne sait quand j'exerce la foi, personne ne sait quand je ne l'ai pas exercée. Mais Dieu sait. Et il sait toutes les fois que j'ai exercé de la foi. Toutes les fois que j'ai dit « Seigneur, aide-moi là ben, !» Nous, on ne le sait pas. Mais Dieu sait toutes les fois que j'ai dit « Seigneur, aide-moi !» Pour des petites choses. Peut-être on a même honte de le dire devant les gens, de dire qu'on a prié pour ça. Mais le Seigneur sait. Et compte cela. Et donc, aussi, après, on trouve dans la Bible, on a des personnages comme Rahab. Et l'Ancien Testament nous dit « Rahab, la prostituée ». Et nous, on n'aurait pas mis ça hein, parmi les saints. On nous parle aussi, ici dans ce passage, c'est au verset 31, il nous parle de Rahab. Au verset 32, il nous parle de Gédéon, aussi, mais aussi de Samson. Samson, on a tous entendu, même les gens du monde ont entendu de Samson et Delila. Mais ce n'est pas dans leur pensée, ce n'est pas des hommes de foi. Et pourtant, Dieu a regardé. Dieu, Samson, c'est vrai que Samson s'est laissé entraîner par ses passions dans sa jeunesse. Et c'est vrai qu'à la fin de son ministère, il s'est laissé entraîner aussi. Mais ce qui n'est pas décrit dans le livre des juges, c'est ses 20 ans de service fidèle. Et il y a juste un verset qui dit il a servi pendant 20 ans. Et alors nous, on voit la première chute, on voit la chute à la fin, puis on dit, bon, c'est un raté. Et les hommes voient comme ça. Tandis que Dieu, regardant d'en haut, il voit Samson, il dit, c'est un homme de foi. Ben oui, il a chuté. Mais je vois que c'est un homme qui a agi par la foi. Et donc, il nous dit que Dieu a intervenu. Alors, il y a ces personnes dont on a lu à partir du verset 35, tous ces gens qui ont été, certains qui sont morts, il y en a qui ont été persécutés, qui sont morts sous la torture et ont vécu dans les grottes et tout cela. Et puis on dit, ça ne se voit pas que c'est des hommes de foi. Et oui, nous ça ne se voit pas. Mais Dieu regarde, et il a vu des gens de foi. Il a eu des femmes, il a vu des hommes, il a vu des personnes de foi. Personne d'autre n'a vu, mais Dieu a vu. Et il a dit, et Dieu rend témoignage de tout cela. Il rend témoignage à leur foi. Ils ont exercé la foi. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est que le problème chez les humains, vous savez, vous montrez, vous prenez une feuille blanche et vous mettez un petit point noir sur la blanche et vous demandez aux gens, vous dites, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'ils vous diront ? Ils voient le point noir. Ils disent, c'est tout ce que vous voyez ? Ouais, je ne vois rien d'autre. Alors, il y a toute une feuille blanche, mais ils ne voient que le point noir. Et vous savez, quand ils regardent dans nos vies aussi, ils ne voient que les points noirs. Ils ne voient pas tous ces moments où on a exercé de la foi. Même les autres chrétiens, c'est pour ça que, bon, il ne faut pas se fier complètement à ce que pensent les autres. Mais c'est ce que le Seigneur pense. Et le Seigneur, il regarde, et c'est étonnant comment, parce qu'il a pu dire, hein, vous savez, il a dit de David, pourtant on sait deux, trois trucs sur David. Mais il dit, David, c'est un homme selon mon cœur. Il dit, comment tu peux dire ça? Tu ne sais pas ce qu'il a fait là, tu ne sais pas, il a tué un innocent, c'est pas seulement qu'il a commis l'adultère, mais il a pris la femme d'un autre. Et tu ne vois pas ça? Il dit, moi je vois la feuille blanche. Bien sûr que Dieu est conscient des points noirs, parce qu'il les a marqués, c'est lui qui les a révélés même. Mais il voit le blanc qui est tout autour. Et donc, vous savez, nous on se regarde, et parfois même on se regarde dans le miroir, et puis on voit que les taches noires, que les points sombres, on voit que les ratés. Mais Dieu dit, mais oui, mais entre les ratés, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ce que le Seigneur voit. Et donc, ce qui nous importe en cette fin d'année, et pour nous donner une juste vision pour l'année prochaine, c'est d'essayer de voir les choses telles que Dieu les voit, chez moi-même et chez mon frère, et de l'encourager. Chez les hommes, vous savez, vous ratez une fois, il me dit, toi tu es nul, là, et dégage. Ou même dans la vie chrétienne, de dire, il a chuté là. Non, on ne peut pas lui confier le ministère quelque chose dans l'église. La dernière fois, il a... C'est une question, mais aide-le, relève-le, remets-le sur les rails. Aide-le. C'est comme ça que Dieu fait. C'est ça ce que Dieu est. Et c'est ce que Dieu veut. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit, verset 39, il dit, tout cela... À la foi desquels il a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il a été promis. Pourquoi ? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils ne l'ont pas eu, pourquoi ? Parce qu'il a dit, vous allez attendre qu'eux, ils arrivent. Et après, on va l'avoir tous ensemble. C'est tout. Et donc, ce n'est pas que Dieu ne peut pas le réaliser, mais c'est qu'il voudrait qu'on aille, puisse tous entrer dans ce qu'il y a. Il a dit, et il a préparé des choses meilleures. Eux voulaient, ils étaient fidèles pour des bonnes choses, mais Dieu voulait quelque chose de meilleur. Vous savez, commencez à connaître un petit peu les disciples, et croyez que vous auriez confié un groupe de disciples à 12 hommes, comme ces 12-là, que vous auriez confié l'avenir de l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, quand il y avait des trucs à servir à manger, quand il y avait tirer le filet avec tous les poissons, ouais, ils étaient là, hein, ils étaient emballés. Mais quand ça allait moins bien, hein, quand ils étaient dans le jardin de Gethsémané, Jésus dit, vous ne pouvez pas prier avec moi, comme on le fait souvent. Quand ils sont venus pour le prendre, eh bien, ils sont tous sauvés. Il y en a même un, on a attrapé son vêtement et il s'est sauvé tout nu. Il a laissé le vêtement. Et puis après, Christ était sur la croix, bien sûr que ses disciples savaient tout ce qui se passait. Mais il n'y en a qu'un seul qui a osé se pointer à la croix. Jean. Et finalement, il a certainement fait plusieurs allées venues. Et Pierre, alors lui, il était en train de pleurer dans un coin. Et Thomas, il dit, moi, je ne crois plus rien. Moi, je ne crois plus rien. Ce n'est pas la peine de me raconter quelque chose. Et puis Judas, alors lui, il s'est pendu. C'est une drôle d'équipe. Et c'est eux qui vont devenir les apôtres, qui vont implanter l'Église de Jésus-Christ. Si Jésus les avait renvoyés chaque fois qu'ils avaient raté trois fois de suite, eh bien, il n'y aurait eu personne. Mais, heureusement que le Seigneur, il n'est pas comme les êtres humains. Il est patient, il persévère. Et la question, c'est, je dis ça, surtout, ne soyons pas comme ça, comme les hommes, avec nous-mêmes. Hein, certains ont plus le tempérament que d'autres. Il y en a certains qui sont plus durs avec eux-mêmes que d'autres. Il y en a qui ne sont pas assez durs. Mais bon, la question, c'est d'essayer de voir les choses comme Dieu voit la chose. Et même après la résurrection de Jésus-Christ, normalement, sur la croix, Jésus avait dit « Tout est accompli ». Et quand il est ressuscité, il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Mais pourtant, ça a pris 40 jours avant de partir. Parce que quand on le voit, il va les chercher là-bas. Il en trouve 7 sur le lac de Galilée. Et puis ça a pris 40 jours pour les rassembler. Drôle d'équipe. Ton équipe qui va être l'équipe qui va former l'église de Jésus-Christ, ben ça lui a pris 40 jours après la résurrection de les rassembler pour qu'ils aillent tous en même temps dans une salle, la chambre haute, pour prier pendant 10 jours. Mais pourtant, vous savez, c'est pas ce que moi je peux offrir à Dieu, c'est ce qu'il peut faire de moi qui fait la différence. Et c'est ce dont je suis disposé à le laisser faire en moi et à travers moi qui importe. C'est pas ce que je peux lui offrir, Seigneur. Tu sais, moi, j'en ai eu des quelques ratés. Il dit, alors, mais laisse-moi faire. Et il veut nous transformer. Et il se peut que nous ayons eu des choses, comme j'ai dit, de Samson, comme David. Il se peut qu'il y ait eu des moments où il fallait exercer de la foi, et puis nous avons fait comme Sarah, on a ri, en attendant que la foi arrive. Mais Dieu persévère avec nous. Hein, il sait, vous savez, quand il m'a trouvé, il connaissait tout sur mon tempérament, plus que moi. Il connaissait tout sur ma personnalité. Il connaissait tout sur mon arrière-plan. Il connaissait ce que j'avais fait et il connaissait ce que je vais faire. Donc il n'y a pas de surprise. Et lorsqu'il nous a recrutés et il nous a appelés à être ses enfants, puis il nous a recrutés pour être ses serviteurs et le servir, eh bien, il savait. Il savait ce qu'il prenait. Et il dit, écoute, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et il est digne de confiance. Vous savez, un autre personnage de la Bible, Jonas. Qu'est-ce qu'on sait quand on lit Jonas dans la Bible ? Jonas, bon, c'était un prophète. Donc déjà, ça nous dit, bon, ça doit être quelqu'un quand même, quelqu'un de bien. Mais la seule partie que Dieu nous a décrite de sa vie, c'est la période où il a fui, et puis Dieu a eu du mal avec lui. Mais certainement qu'il a bien servi le Seigneur jusque-là, et il y a de fortes chances qu'il a bien servi le Seigneur après le chapitre 4 de Jonas. Mais le Seigneur nous a donné les chances dans le chapitre 4 parce que ça ressemble beaucoup à des expériences que nous avons dans nos vies. Mais sinon, Jonas, certainement, c'était un homme qui a plu à Dieu. Et il se peut que aussi, nous, dans notre vie, il y a des moments difficiles, il y a des moments où je dis, mais bon, Dieu, il ne peut pas. Non, vu moi, mon il ne peut pas. Ce n'est pas à toi de décider. Si le Seigneur te veut, c'est qu'il te veut. Hein? Et il peut faire quelque chose. Et c'est étonnant ce qu'il peut faire. Ça me fait penser à... Je me rappelle, il y avait une fois un certain Baptiste qui était venu. C'était une fille qui avait reçu le Seigneur, qui a amené un ancien copain de classe. Quand je l'ai vu rentrer, j'ai dit, oula, ça se voyait sur son visage. Il avait vu un passé. Et j'ai dit, mais après, Baptiste, il prenait son saxophone et puis il chantait les louanges du Seigneur, hein, avant que ce soit terminé. Et puis il était un encouragement pour beaucoup. Mais le truc, c'est que il faut voir les choses telles que Dieu les voit. Alors, la question, il nous parle de, au verset 40, il dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Je prends les deux mots, parvenir et perfection. Il parle, ce, donc on a l'idée de parvenir à la perfection. Si il y a question de parvenir à la perfection, c'est qu'on n'y est pas. Hein, parce que parfait, il y a un instant où c'est parfait. Avant ça, c'est pas encore parfait. Et c'est une question de parvenir à la perfection. Donc, et c'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes en voie de perfectionnement. Il est en train de faire une œuvre en nous. Bon, il y a des ratés, il y a des gens, mais ça avance. Peu importe si je fais deux pas en avant et un en arrière. Mais j'avance. Et il parle de... c'est le concept de parvenir à la perfection. Et c'est ça qui doit nous motiver. C'est comme ça que nous devons voir la chose. Mais Seigneur, je n'ai pas la foi que je voudrais. Mais oui, ce n'est pas un problème. Mais demain non plus, tu ne l'auras pas. La question, c'est qu'on progresse dans ce sens. On développe, on apprend à vivre par la foi. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Regardez. Donc c'est la suite de la pensée. Hein. Normalement, les chapitres, hein, ils n'étaient pas là. Hein, c'est un texte continu. Donc, chapitre 12, versets 1 et 2. Et Dieu, après, donc ça vient tout de suite après le verset 40. Il dit, nous donc aussi. C'est-à-dire, vu de tout ce qu'on vient de dire. Hein, ce qu'on vient d'entendre. Eh bien, nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. S'il y a tous ces gens qui nous ont précédés, qui sont des gens... de foi, que Dieu voit. Et lorsque je vois des imperfections. Mais Dieu les voit comme des gens de foi. Il dit, lorsque nous sommes entourés, imaginez-vous sur le terrain, et puis c'est un grand stade. Et là, sur les gradins, ce sont les gens qui ont précédé, qui ont déjà vécu pour le Seigneur. Et ils sont en train de nous dire, vas-y, cours, continue, cours. Et on est sur le stade en train de courir, nous. Et eux, ils sont assis parce qu'ils ont déjà fait leur parcours. Et ils nous encouragent. Il dit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est-à-dire qui nous colle aux pieds. J'ai jamais essayé de courir dans la boue, et puis ça colle aux chaussures, ça devient lourd. Il dit, oui, mais le péché c'est un peu comme ça aussi, ça commence à coller aux pieds, il faut s'arrêter, il faut nettoyer les bottes hein, pour continuer. Il dit... rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Il n'a pas dit courir rapidement, mais avec persévérance. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui ne s'arrêtent pas. C'est tout. Courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant, et voilà, c'est ça qui est important, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et ayant les regards sur Jésus. Celui qui n'a pas les yeux fixés sur le but, eh bien, il ne risque pas de l'atteindre. Celui qui n'a pas les yeux sur le Seigneur ne risque pas d'aller vers le Seigneur. Et donc il nous dit, voilà, nous sommes sur ce terrain où il y a toutes ces épreuves par lesquelles nous devons passer. Ça fait partie de notre course. Hein, vous avez déjà vu les courses de chevaux, quand ils font pas les courses vitesse, mais les sauts et tout cela. Il y a toutes sortes d'épreuves, il y a des grands, des petits, les lacs, il y a toutes sortes de choses, et le cheval doit s'adapter à chaque épreuve. Puis après, il y a une haie, et puis... oui, mais c'est ça sa course. Mais nous aussi, notre course est un peu comme ça aussi. Et la seule différence, c'est que pour chacun d'entre nous, c'est pas la même, c'est tout. Hein, donc on ne peut pas se comparer, on dit « ouais, tu as fait combien de haies ?»« Ah oui, mais il y en a un qui en a 50 et il y en a un qui en a 3 seulement. » C'est tout. La question, c'est de traverser les haies chaque fois. Et donc il dit « comment courir ?» Eh bien, regardons 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens, Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Premier Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Il a parlé de pas mal de différents problèmes. Et puis là, au 24, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Il dit, ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinence. C'était dans les informations ce matin. Il nous parlait je ne sais plus maintenant quelle équipe de foot, qui doit jouer ce week-end. Il dit, eux, ils ne vont pas trop arroser le 31, parce qu'ils ont un match. C'est-à-dire, parce qu'il y a un match, donc on n'arrose pas trop. Mais les gens du monde, ils le savent. Mais aussi, nous, dans notre vie chrétienne, il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on est dans une course. On a un chemin à parcourir. On a une voie à suivre. Et donc, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Les gens, ils disent, vous devez être chrétien, vous ne pouvez plus faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez vous amuser, on ne peut pas faire ceci. Mais on n'a pas envie parce qu'on est en train de faire une course. Tout comme les gens qui jouent au foot, là, il y a des choses qu'ils ne font pas. Et au verset 26, donc il dit, « Moi donc, il dit pour moi, je cours, non pas comme à l'aventure, c'est pas je cours dans le vide, sans savoir où je vais, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Là, il y a Franck ici, qui fait le sport, là. Il se maintient en état. Pourtant, c'est lui qui forme les autres. Il faut qu'il se maintienne en état, ben sinon, comment il va faire les autres? Comment il va leur montrer comment faire, hein? Et Paul dit, moi, je cours parce qu'il y en a d'autres qui courent aussi. Et je dois les entraîner, je dois leur montrer, je dois aller jusqu'au bout. Il dit, je fais ce que j'ai à faire pour pouvoir courir jusqu'au bout, afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. J'ai expliqué aux autres comment le faire, et puis moi-même, je ne l'ai pas fait. Il dit, on court tous, comme, c'est pas qu'il y en a, dans les courses du monde, il n'y en a qu'un seul gagnant. Dans la course du Seigneur, tous ceux qui arrivent sont gagnants. Et donc, c'est une question de courir jusqu'au bout. Et la question, c'est de dans cette course, c'est que si je tombe, ben c'est de se relever. C'est tout. Si je me relève chaque fois que je tombe, je peux continuer. C'est quand je ne me relève plus, hein, que je me dis, ah, ben ça c'est raté. L'année dernière, c'est un échec. Ben, cette année, laisse tomber, je ne vais même pas essayer. Non. On se relève et puis on prend et le Seigneur nous encourage. Et on parlait tout à l'heure avec espoir, il est en train de livre le voyage du pèlerin. Ah, il est tombé combien de fois? Je ne sais pas si tu as compté encore. Comme fois il est tombé, mais à tous les chapitres, il tombe. Mais le truc, c'est qu'à la fin, il arrive. Et c'est ça, la vie chrétienne. Et c'est d'aller jusqu'au bout. Et donc, je dois continuer cette course. Oui, bien sûr qu'on prend note des choses qui n'ont pas convenu cette année passée, des choses qui sont collées à nous et qui nous ralentissent dans notre course, ou des distractions qui nous arrêtent, hein, parce que quand on ne peut pas courir aussi vite quand on regarde à droite et à gauche. On peut voir ces choses, dit bon, ben ça, il faudrait que j'arrête ça, faut pas, ça, il faut pas, parce que je veux, voilà, puis il faut que je me relève plus rapidement. Des fois, j'ai du mal à me lever. Non, lève-toi et puis reprends, parce que le temps passe. Mais continue à courir. La question, et c'est ça les pensées de ce soir, c'est que d'abord, c'est Dieu qui voit ceux qui ont exercé la foi. Ce n'est pas les hommes. Et il peut y avoir beaucoup de moments où vous avez exercé la foi que personne n'a vu. Et la foi, c'est pas la foi, exercer la foi, c'est pas seulement quand on accomplit des grandes choses qui tapent à l'œil, mais c'est les petites choses de tous les jours où on doit exercer la foi. Alors le Seigneur, d'abord, donc le Seigneur nous a jugés et nous évalue en fonction de cette foi. Et aussi, c'est une question de se relever chaque fois. C'est une question de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Et puis un peu on ne court pas avec les grosses bottes, on met des chaussures légères, hein, c'est tout ce qui peut être nous ralentir, on s'en défait pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et c'est ça qui fera la différence pour cette marche. Donc c'est pas une question de prendre des résolutions, on n'a pas la force pour prendre les résolutions qu'on prend, hein, pour les réaliser. La question, c'est que c'est une détermination de chaque jour de dire « je veux suivre le Seigneur et je veux vivre pour lui ». Et nous serons étonnants à quel point on peut regarder cette année et dire « mais janvier, 1er janvier l'année dernière, j'étais où et où est-ce que je suis maintenant ?» Et puis après, c'est une question de le 31 prochain, si le Seigneur ne revient pas, eh bien, où est-ce que je serai par rapport à aujourd'hui? Et c'est ça qui nous encourage. Hein, et le Seigneur nous a... Et on ne doit pas se comparer à quelqu'un d'autre. Je me compare à mes progrès, à ce que j'ai pu faire. Hein, donc, c'est pas, on ne se regarde pas les uns les autres. On regarde et on dit, quand même, j'ai avancé. Et puis, je me rappelle une fois... J'étais dans les Pyrénées, là, puis on est parti dans le noir, tôt le matin, dans le noir, pour aller au sommet de... Je me souviens plus du nom de la montagne. Ah, mais j'étais pas en état. Je montais avec mon fils, lui, ça allait plus vite. Et moi, j'étais constamment en train de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Et je dis, je regarde les chevaux, là, parce que là-bas, ils lâchent les chevaux dans la nature. Et je regarde les chevaux, il dit, mais les chevaux, ils sont tous pareils, hein, tu n'as pas besoin de t'arrêter pour regarder chacun, hein, il me disait. Ah, mais j'étais pas en état. Mais vous savez, avant la fin de la journée, je suis arrivé au sommet. Hein. Bon, lui, il est arrivé à l'aise, moi, je suis arrivé en tirant la langue, mais je suis arrivé. C'est ça qui importe. Et c'est ça dans notre vie chrétienne. Prions.